Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Okonde.
Difficile pour les étudiants congolais d'Ukraine de poursuivre leurs études en Belgique. Le pays leur reconnaît le statut de réfugié, mais pas celui d'étudiant. Ils peuvent cependant le faire en Pologne ou carrément se soumettre aux conditions de Bruxelles, selon l'ambassadeur de la RDC en Belgique. Lutter contre le financement des institutions terroristes et le commerce illicite des minerais en RDC, c'est entre autres l'objet du séjour à Kinshasa du sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier du gouvernement américain. Il a dit hier dans un point de presse à Kinshasa. Alphonse Maindo, directeur de Tropenboss RDC, notre invité ce matin. Cette ONG a organisé hier à Kisangani un atelier sur le renforcement des capacités des autorités locales sur le contrôle des mouvements migratoires et activités des migrants dans les zones du projet PIRED plus oriental. Bonjour à tous. Une cinquantaine de Congolais étudiants en Ukraine se sont réfugiés en Belgique. Ces derniers espèrent poursuivre leurs études dans ce pays. Mais chose qui ne sera pas facile car leur statut d'étudiant n'est pas reconnu automatiquement en Belgique. Une situation dénoncée par un collectif d'associations afro-belges. Cynthia Bachizi nous en parle.
Selon Dido Lakama, coordinateur de l'ONG Change, quelques étudiants congolais inscrits régulièrement en Ukraine ont adressé des demandes d'admission à certaines universités belges. Ces demandes ont été refusées. Les étudiants congolais sont arrivés en Belgique comme des réfugiés, mais ne bénéficient pas encore de ce statut reconnu systématiquement aux seuls étudiants ukrainiens. Cette information est confirmée par l'ambassadeur congolais en Belgique que nous avons contacté. L'ambassadeur Christian Dongala précise qu'une alternative a été trouvé avec la Pologne.
Il y a un dispositif qui a été mis en place, un comité de suivi, ce que je peux appeler un centre de crise qui est basé en Pologne avec notre ambassadeur qui est en Pologne. Un accord a été trouvé avec le gouvernement polonais pour qu'on puisse accorder à ces étudiants une carte de séjour, un document provisoire leur permettant, ce qui est intéressant, de poursuivre leurs études en Pologne normalement. Ou, pour ceux qui le souhaitent, ça c'est un autre débat, d'aller ailleurs. Mais dans un premier temps, ils sont pris en charge avec une carte de séjour et une possibilité de poursuivre leurs études en Pologne.
Les étudiants congolais évoluant en Ukraine qui souhaitent rester coûte que coûte en Belgique doivent se soumettre donc aux obligations des lois belges en matière de séjour.
En Ituri, des combats se sont déroulés dans la nuit de jeudi à hier vendredi entre la milice Codeco et les FARDC à Nongo, dans la commune rurale de Mongualou, à 80 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Le bilan avancé par des sources concordantes est de 5 morts, dont 4 miliciens et un militaire FARDC, et puis 3 blessés. Selon des sources de sécurité, un autre groupe de ces assaillants a emporté environ 350 vaches du village de Berunda Ngbazar. Isaac Remoyope nous fait le point.
Les miliciens de Codeco de la faction dénommée catholique ont surpris la nuit dernière une position des FARDC à l'entrée du marché Poipo dans la commune rurale de Mongualou. Ils ont tiré plusieurs coups de feu pendant leur incursion. Les FARDC ont riposté immédiatement. Les combats entre les deux parties ont duré quelques heures. Des sources de sécurité indiquent qu'un militaire est mort et deux autres blessés. De son côté, l'armée a neutralisé 4 assaillants. La même nuit, une autre faction de la milice Codeco dénommée Bon Temple et dédiée a fait incursion au quartier Sayo, toujours à Mongualou. Un militaire a été également blessé par balle à la jambe. Il a été acheminé à l'hôpital pour des soins. Selon la société civile locale, les habitants vivent dans une psychose permanente à cause de la présence des miliciens dans la zone. Ils demandent aux FARDC de lancer les opérations militaires pour les mettre hors d'état de nuire. Toujours en territoire de Djougou, cette fois au village Berun d'Angasba, des assaillants de la Codeco ont porté plus de 350 vaches d'un groupe d'éleveurs. Ces bêtes ont été acheminées dans leur bastion à Abouboudou. Leurs propriétaires demandent aux FARDC de traquer ces inciviques pour équiper récupérer ces vaches. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Dans le territoire de Fizi au sud Kivu, les infirmiers ont repris timidement hier vendredi les activités dans les structures sanitaires de Baraka, Malindé et Katalukulu. C'est après la suspension de leurs activités mercredi dernier, suivie d'une marche dans la ville de Baraka. Ces infirmiers réclament la libération de trois de leurs camarades kidnappés depuis dimanche dernier par des hommes armés non autrement identifiés. L'incident s'était produit à Katalukulu, à 27 km au sud-est de la ville de Baraka. Fiston Goma.
Les kidnappeurs, identifiés comme des miliciens Maïmaï, cherchaient le médecin de l'hôpital et l'infirmière titulaire d'un centre de santé à Katalukulu la nuit du dimanche dernier. Ne les ayant pas trouvés, ils ont mis la main sur 5 personnes retrouvées sur les lieux, dont un chauffeur et 4 infirmiers qu'ils ont amenés vers la brousse. Les chauffeurs et un infirmier ont réussi à s'enfuir. Les 3 autres infirmiers, dont une femme, sont toujours entre les mains des assaillants. Le président des infirmiers, Baraka, Pierre Kitete Salumu.
Depuis ce jour-là, même les structures les plus proches de ces centres de santé ont suspendu les activités. Et aussi, on perd, ils peuvent être kidnappés un jour. Puisque nous, les infirmiers ou les agents de santé, nous sommes à Talama, nous sommes à Lumanya, à Kilicha, etc. On kidnappe les infirmiers ou les agents de santé au moment où nous ne sommes pas payés. Ils n'ont ni prime de risque, ils n'ont ni salaire. Alors, c'est un peu compliqué pour nous. À leur retour, je ne sais pas s'ils peuvent soigner calmement. C'est pour cette raison que je demande aux autorités politico-administratives de sécuriser les infirmiers.
Le commandant de FRDC, le colonel David Ipanga, affirme que les négociations sont en cours pour obtenir la libération des personnes kidnappées. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Lutter contre le financement des institutions terroristes en RDC, soutenir le secteur des mines en arrêtant le commerce illicite de matières premières et encourager la transparence dans les secteurs des mines, c'est ce qui constitue entre autres l'objet du séjour à Kinshasa du sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier du gouvernement américain. Brian Nelson a tenu un point de presse hier vendredi à Kinshasa. On écoute ses propos au micro de Paul Matin.
Nous sommes également venus pouvoir discuter des secteurs dans lesquels nous pouvons aider à lutter pour le financement des institutions comme l'État islamique en RDC. L'État islamique, aussi connu comme Daesh, RDC, pose de sérieuses menaces à la RDC et à toute la région. Il est donc important que nous travaillions ensemble pour pouvoir empêcher leur croissance. Enfin, je suis également venu ici pour démontrer notre soutien au secteur des mines et les réformes dans ce secteur afin de pouvoir arrêter le commerce illicite de matières premières et également d'encourager la transparence dans le secteur des mines qui est essentiel pour améliorer également la chaîne d'approvisionnement du secteur. Ceci permettra donc à s'assurer que la population congolaise puisse bénéficier d'énormes richesses que le secteur minier regorge.
Et au même moment, à Goma, la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, a clôturé hier vendredi un atelier de sensibilisation des acteurs des entités étatiques impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme. Un atelier de 4 jours avec pour objectif d'outiller ces acteurs étatiques sur la loi anti-blanchiment. Il est également question de collecter les données auprès de ces entités par province afin d'établir un rapport qui permettra d'évaluer les risques au niveau national et définir une politique générale de lutte contre le blanchiment d'argent en RDC. C'est entre autres les cours et tribunaux, les parquets, les régies financières et services de migration et sécurité. Félix Lukongo, directeur de la réglementation à la CNRF, explique les enjeux de cette rencontre. Il est joint au téléphone par Sif Amago.
Le risque de blanchiment des capitaux, c'est-à-dire on voit les niveaux de vulnérabilité de notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Je parle par exemple de l'exploitation illicite des minerais, l'escroquerie. Ce sont des infractions qui peuvent donner facilement lieu au blanchiment des capitaux. Ce sont des menaces. Les vulnérabilités, ce sont des faiblesses à nos lois. Les faiblesses, c'est que les délinquants exploitent. Et maintenant, cet ensemble de menaces et vulnérabilités, ça constitue les risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Le message, c'est de comprendre les dangers auxquels la République est exposée. Voilà pourquoi, lorsque nous avons reçu les autorités d'enquête et de pour ensuite, les magistrats des cours des tribunaux et ceux de parquet y rattachés, nous leur avons montré le sens de la lutte. Nous leur avons expliqué qu'il constitue la cheville ouvrière de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le pays doit avoir des condamnations. Le pays doit avoir des confiscations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour rendre son dispositif efficace.
Félix Lukungo ajoute que cette évaluation fait suite aux recommandations du groupe d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale. Après avoir constaté des faiblesses dans le cadre juridique et dispositif de la RDC dans cette lutte. En bref, la première conférence internationale de gestion des volcans des Virunga devra ouvrir ses portes ce samedi 19 mars à Goma, au Nord Kivu. Une initiative du ministère de recherche scientifique et innovation technologique en collaboration avec l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. Plusieurs experts, volcanologues et les politiques sont attendus à l'occasion de mener des réflexions sur des stratégies à mettre en place pour la gestion des volcans en RDC. Selon l'OVG, la majorité d'invités pour la conférence étaient déjà présents hier soir à Goma et à quelques heures de la tenue de cette conférence internationale sur la gestion des volcans en RDC. L'Observatoire volcanologique de Goma a ouvert hier vendredi le musée sur les volcans des Virunga avec plusieurs outils d'information. Il s'agit d'une carte volcanique en 3D qui montre toute la région volcanique et ses particularités. Une vitrine où sont exposés des morceaux de lave avec leurs composantes, notamment les scories, le chevet de Pélé et autres particules volcaniques. Il y a aussi des projections des films documentaires historiques sur la région des volcans. Notez que ce musée, qui sera désormais permanent, a été mis sur pied dans le cadre de la coopération belge avec le Musée royal d'Afrique centrale Tervu-Rennes. Parlons encore environnement avec Omanima, clôture hier de l'atelier de formation sur les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Cet atelier de 4 jours organisé à Kindu par GeoFirst Développement l'été au profit des autorités politico-administratives et de quelques représentants des communautés. Florence Kizalunga, reportage.
Satisfait du déroulement des travaux qui se sont déroulés dans la salle du Kong Manima, le coordonnateur national des GeoFest Development a fait savoir que les matières dispensées permettront aux participants non seulement de respecter, mais aussi d'utiliser les différentes étapes pour améliorer les processus d'appropriation des forêts. Alphonse Ouala.
C'est un processus qui se décline en des étapes et si ces étapes de la procédure ne sont pas respectées, il y a des problèmes qui se posent. Ils ont appris les rôles de chacun, donc la cartographie des compétences, les outils qui doivent être utilisés dans les processus, ainsi que les étapes du processus qui doivent être respectées avant que la demande des CEPSEL ne soit déposée.
La volonté des GeoFest, qui est celle d'accompagner les communautés locales dans la gestion rationnelle des forêts, a été saluée par les participants, comme l'affirme Ladislas Kilolo, administrateur du territoire de Kailo, qui a pris la parole au nom de ses collègues.
Ça posait problème, mais présentement, comme nous sommes édifiés, j'ose croire que la profession aura pour que nous puissions bien suivre les processus jusqu'à l'obtention, comme vous l'avez dit, de notre arrêté.
Le gouvernement provincial a promis de prendre en compte les recommandations de cet atelier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Encore une réaction après l'incendie d'un dépôt de carburant mercredi au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, ici à Kinshasa. Un habitant de ce quartier qui déplore la survenue de ce drame insiste sur le fait que des mesures contraignantes devraient être prises par les autorités de la ville pour mettre fin une fois pour toutes à la présence de ces nombreux dépôts de carburant à proximité des maisons d'habitation et sans mesure particulière de sécurité. Il a été joint au téléphone par Noïla Luzitu Kabambi.
Deux dépôts de carburant pilulent dans notre quartier. Derrière chez moi, il y en a deux. D'ailleurs, cette fois, c'est la troisième qui a incendie dans un dépôt de carburant du quartier des Bonhommes. Les deux précédents incendies se sont produits dans ce même coin autour du dernier lieu du drame. Mais il n'y a eu aucun suivi des autorités pour les deux premiers. Les propriétaires de ces dépôts n'ont jamais été inquiétés, ni les autres d'ailleurs. Nous attendons dire que le dernier dépôt d'où est parti ce drame serait à un cadre des hydrocarbures. Ça nous étonne plus. plus. Nous comprenons maintenant pourquoi il n'a jamais été inquiété alors qu'il fait marcher son entreprise sans aucun document d'autorisation ni une quelconque assurance. Pour ce genre de situation, vous journalistes, aidez-nous s'il vous plaît à ce que les mesures soient prises car nous nous sentons en insécurité dans nos propres maisons. Aidez-nous à faire le suivi, que des mesures soient prises par les autorités pour éviter une fois pour toutes que ces drames se répètent. Plusieurs maisons ont pris feu. Pensez aux propriétaires qui perdent leur maison, chère Mataki, au prix de nombreux sacrifices par la faute des autres, alors qu'ils n'ont rien demandé. Il y a eu aussi mort d'homme. Perdre un enfant par la faute des autres, c'est révoltant. Le garçon décédé, on apprend qu'il est décédé sur place. Et qu'en est-il des autres brûlés qui sont encore hospitalisés? Dieu seul sait s'ils pourront s'en sortir dans les jours à venir.
Actualité internationale.
L'Espagne et le Maroc ont mis fin hier vendredi à près d'un an de brouilles diplomatiques majeures liées à la question du territoire disputé du Sahara occidental après un changement radical de la position de Madrid. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l'absence d'action unilatérale et la transparence et la communication permanente, a écrit le gouvernement espagnol dans un communiqué. Précisons avoir identifié 142 personnes dont les actes doivent faire l'objet d'une enquête. L'ONU a affirmé hier vendredi que des membres du gouvernement du Soudan du Sud, pays en proie à des violences à caractère politico-ethnique depuis son indépendance en 2011, sont responsables des possibles crimes de guerre. Des membres du gouvernement du Soudan du Sud sont responsables des violations des droits de l'homme s'apparentant à des crimes de guerre dans le sud-ouest du pays, a affirmé l'ONU.
L'invité.
Dans la province de La Chopo, l'ONG Tropenbos RDC a organisé hier vendredi un atelier sur le renforcement des capacités des autorités locales sur le contrôle des mouvements migratoires et activités des migrants dans les zones du projet PIRED plus oriental. Environ 50 personnes y ont participé, parmi elles les chefs des secteurs, les préposés de l'état civil ainsi que les agents de la DGM. En quoi consiste cet atelier? Quel est l'objectif et quel pourrait être l'impact de ces mouvements migratoires dans les activités de Pirède de plus oriental? Professeur Alphonse Maindo répond à Jacques Moukonkole.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet atelier?
Ce qui a motivé l'organisation de cet atelier, c'est que parmi les moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière, il y a la démographie, c'est-à-dire une forte démographie qui accentue la pression sur les forêts et les ressources naturelles, bien évidemment. Alors, on a fait une étude pour comprendre un peu les dynamiques de ces mouvements démographiques, pas seulement migratoires, parce qu'on regarde aussi la natalité, la mortalité, avec les mariages et tout le reste, au niveau des terroirs et les impacts qu'a pu avoir dans les différents terroirs. À partir de là, maintenant, on a construit des modules pour parler avec les chefs des secteurs, les préposés d'état civil des secteurs, ainsi que les services d'immigration, donc la DGM en l'occurrence ici, pour renforcer leur capacité dans la maîtrise des mouvements des populations et des déplacements des populations, mais aussi dans le contrôle de ces mouvements-là. Parce que si on assure le contrôle des populations, on peut concevoir des programmes de politique publique qui sont adaptés en fonction des statistiques que l'on possède, en fonction des populations dont on connaît les évolutions, tout ça. On peut adapter les offres pour donner le nombre d'écoles, le nombre de centres de santé, les infrastructures routières qu'il faut, l'emploi qu'il faut. Donc c'est une question importante pour adresser cela.
Donc c'est cela l'objectif que vous poursuivez?
Oui, c'est l'objectif qui est poursuivi ici. En tout cas, c'est la maîtrise de mouvements migratoires et de la démographie de ces entités-là. Il s'agit ici de faire en sorte que les autorités locales, à leur échelle, soient capables de maîtriser les populations qui sont dans leur entité et bien les gérer pour les développements.
Les mouvements migratoires sont-ils prononcés dans les territoires des Bafoua-Sendé, Ubundu et Isangi?
Nous observons deux types de mouvements migratoires. territoires, dans les trois territoires. Il y a le territoire des Bafoussiennes, c'est le territoire qui reçoit le plus de migrants, qui proviennent aussi bien de l'intérieur de la province, dont d'Isangui et des autres provinces, notamment l'Ituri et le Nord Kivu, où le territoire de Bound également et se trouve dans la même dynamique de recevoir plus que de voir des gens partir, tandis que le territoire d'Isangui, c'est un territoire où on assiste plus à un mouvement de départ des gens. Les gens quittent Isangui parce que l'espace est réduit, mais il y a beaucoup de gens, et donc ils vont chercher ailleurs de nouvelles terres. En revanche, en ce qui concerne le taux de natalité, donc croissance naturelle, il y a plus de croissance naturelle de la population à Isangui que dans les deux autres territoires.
Est-ce que ces mouvements influent sur les activités des Pyrénées de plus?
Effectivement, ça influe beaucoup sur les activités des Pyrénées de plus. Alors, je vais vous donner juste une petite anecdote. Vous êtes dans les terroirs de 112 sur la route la nationale numéro 3, dans les secteurs Kumobiatuku, dans les territoires d'Ubundu. Alors, dans ces villages-là de 112, vous avez 95% de la population qui sont donc des immigrés qui viennent d'Isangui, de Toboké, pour être clair. Et vous avez donc à peu près 5% seulement des populations autochtones. Alors, les Pyrénées voudraient donc stabiliser la déforestation et permettre aux gens d'avoir des alternatives, notamment en termes de culture pérenne. Or, ces gens-là, 95% de la population de ce terroir-là, n'ont pas de terres où ils peuvent faire des cultures pérennes. Et donc, ça nous embête, nous, on ne peut pas leur donner des cultures pérennes, et on se retrouve en revanche avec une population locale de Bakoumou qui ne veulent pas faire vraiment des cultures pérennes, qui ne sont pas très doués pour les activités agricoles, et donc ils ne prennent pas les semences. Et donc, on est là dans une situation un peu paradoxale, où vous voulez intervenir, mais vous ne pouvez pas le faire parce que les gens qui peuvent faire des cultures pérennes n'ont pas de terres.
Alors, professeur, que faire pour éviter que ces impacts ne soient pas vraiment néfastes dans les zones de votre intervention?
Alors, si on veut réduire les effets nocifs de ces migrations et de cette dynamique démographique, il faut faire une maîtrise de la population. C'est-à-dire qu'on doit d'abord identifier qui est là, qui est qui, et ensuite on doit savoir qui vient, pourquoi il vient là, et faire une planification. C'est pour ça qu'on a appelé les chefs ici à faire de recensement, mais aussi à faire une planification de savoir quels sont les besoins dont j'ai ici. Je peux mobiliser les gens pour telle entité, pour tel ou tel secteur où j'ai des besoins. Par exemple, il y a beaucoup de zones, beaucoup de secteurs ici qui n'ont pas de médecins qui sont là de manière... ou des centres de santé qui manquent. Donc, en ce moment-là, vous pouvez faire une politique migratoire qui attire les infirmiers, qui attire les médecins. Alors là, en ce moment-là, ça peut être rentable. Mais aussi, ce que vous pouvez aussi faire, au lieu de rester comme ça à subir l'immigration, vous pouvez provoquer, avoir une attitude procréative. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez imaginer qui sont les opérateurs économiques qui sont dynamiques, que je peux attirer dans mon terroir, dans mon secteur, dans ma chefferie, pour qu'ils viennent apporter de la plus-value, donc de ressources, des richesses, qui me permettront d'avoir des taxes et des impôts qui me permettront de faire des actions publiques.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Mais je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.